Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « Le point sur la crise dans la région du lac Tchad ». Ismaël Béa à la rencontre d'enfants soldats au Soudan du Sud, augmentation du nombre d'adolescents tués par le VIH-Sida dans le monde, rapport de l'UNESCO sur le racisme et le foot, ouverture prochaine de la conférence générale de l'ONU-DI, gros plan sur la RCA avant la visite du pape François, il sera aussi question de la situation au Sahel. En Afrique, le coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel appelle à une réponse multidimensionnelle pour trouver une solution à la crise qui affecte la région du bassin du lac Tchad. Toby Lanzer, qui vient d'effectuer une visite d'une semaine dans les zones touchées du Nigeria, signale que l'extrême violence menée par Boko Haram dans le nord-est du pays a forcé plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer et presque 4 millions de personnes à sombrer dans la faim. Mais c'est surtout la pauvreté abjecte et la dégradation de l'environnement qui sont les racines sous-jacentes de la crise. On l'écoute depuis Abuja.
Presque tout le monde m'a dit qu'ils veulent rentrer chez eux, mais quand j'ai posé la question « pourquoi vous ne le faites pas ?», la réponse elle était très claire. Rentrer chez eux actuellement, c'est vraiment ce que les gens veulent, mais ils ne peuvent pas. Le deuxième message, aidez-nous pas seulement dans le sens d'une action humanitaire, mais aussi donnez-nous quelques éléments pour faire en sorte qu'on puisse participer dans la vie commerciale de la ville de Maiduguri. Et là, on parle d'une ville d'un million d'habitants qui actuellement accueille 1,6 million de personnes déplacées. Imaginez-vous, en Europe, en Amérique du Nord, pour chaque résident, 1,6 personnes qui sont accueillies avec des bras ouverts parce qu'ils ont été déplacés par la violence autour de la ville.
Au Soudan du Sud, près de 16 000 enfants ont été enrôlés de force cette année par les différentes parties au conflit. Selon l'UNICEF, il y a peu de signes d'amélioration sur le terrain, malgré la signature d'un accord de paix en août dernier. Et la situation des enfants dans leur ensemble reste très grave dans le pays. C'est dans ce contexte qu'Ismaël Béa, défenseur des enfants affectés par la guerre de l'UNICEF et lui-même ancien enfant soldat, s'est rendu au Soudan du Sud pour s'enquérir de la situation sur place.
Ils ne veulent pas retourner dans les combats. S'ils ont rejoint les groupes armés, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont là certains des témoignages qu'Ismaël Béa a entendus au cours de sa visite au Soudan du Sud cette semaine. Au cours d'un point de presse téléphonique ce vendredi à Genève, ce défenseur des enfants affectés par la guerre a tenu à rappeler que les enfants sud-soudanais devraient être à l'école et non pas sur des champs de bataille. Car sur le terrain, l'ancien enfant soldat sierra-léonais s'est fait l'écho des graves violations des droits des enfants, dont des assassinats, des enlèvements et des violences sexuelles à travers le pays. En effet, depuis le début de l'année, la situation des enfants sud-soudanais a empiré avec un enrôlement et une utilisation constante d'enfants, essentiellement des garçons mais aussi des filles. Depuis janvier dernier, environ 16 000 enfants ont été ainsi recrutés et sont toujours enrôlés par ces fractions armées. Il faut juste signaler qu'au moins 1 500 enfants ont été tués par ces violences et plus de 11 000 enfants ont été séparés de leur famille. Le Soudan du Sud est le théâtre depuis 2013 d'une terrible guerre civile opposant l'armée régulière fidèle au président Salva Kiir à une rébellion dirigée par son ancien vice-président Riek Machar. Alpha Diallo Géré pour la radio des Nations Unies.
L'UNICEF s'alarme par ailleurs du fait que le nombre d'adolescents tués dans le monde par le VIH-Sida a triplé ces 15 dernières années. L'épidémie est la principale cause de décès parmi les adolescents en Afrique et la deuxième à l'échelle mondiale. Et parmi tous les groupes affectés par le virus, les adolescents sont le seul chez qui le taux de mortalité ne sont pas en baisse. L'UNICEF appelle donc à investir immédiatement dans l'accès des enfants et des adolescents aux soins et aux traitements. Les explications d'Erika Grossi.
Selon l'UNICEF, la majorité des adolescents tués par une maladie associée au sida avaient contracté le VIH lorsqu'ils étaient bébés il y a 10 ou 15 ans. À l'époque, moins des femmes enceintes et des mères avaient accès aux traitements antirétroviraux pour prévenir la transmission du virus à leurs enfants. Ces enfants ont ensuite survécu jusqu'à l'adolescence, souvent sans connaître leur statut séropositif. À l'échelle mondiale, moins de la moitié des nourrissons de moins de 2 mois sont testés par le VIH et seulement un tiers des 2,6 millions d'enfants de moins de 15 ans qui vivent avec le VIH suivent un traitement. Le taux de prévalence du VIH chez les adolescents est particulièrement marqué en Afrique subsaharienne, surtout chez les filles, qui représentent 7 nouvelles infections sur 10 parmi les jeunes de 15 à 19 ans. Toutefois, seulement un adolescent sur 10 subit les tests de dépistage du sida dans cette partie de l'Afrique. À l'échelle mondiale, 26 adolescents sont affectés par les virus du VIH chaque heure. Près de la moitié d'entre eux vivent en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, en Inde, au Mozambique et en Tanzanie.
L'UNESCO a présenté ce vendredi un nouveau rapport sur la lutte contre la discrimination et le racisme dans le monde du football. Ce document s'intéresse principalement aux clubs sportifs basés en Europe et en Amérique latine et présente aussi un aperçu du contexte historique en plus de lister les incidents les plus médiatisés. Le rapport propose également des solutions pour pallier à ce phénomène qui persiste dans les stades. Alexander Schlichlik est chef de la section jeunesse et sport à l'UNESCO.
Une chose qui est très importante, c'est qu'il faudrait créer une autorégulation des supporters. Il faut un meilleur contrôle des clubs de supporters sur leur pièce. Deuxième chose, il faut vraiment trouver ceux qui sont à l'origine de ces comportements racistes et vraiment les sanctionner individuellement. Après, il faut absolument qu'on étudie les transformations sociales qui se passent dans le public qui accède à ces stades. Et puis, ce qu'il est très important, que les clubs eux-mêmes affiche quelque chose comme une marque citoyenne. Et ça devrait se voir aussi par un changement du public qui accède au stade.
Et puis lundi à Vienne débutera la conférence générale de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Une conférence placée cette année sous le thème « L'industrialisation durable pour une prospérité partagée ». Une question importante pour le développement économique du pays. Les explications de Célestin Monga de l'ONUDI.
La question de l'industrialisation inclusive suppose la création d'emplois décents, durables. Parce que un des problèmes essentiels, c'est la création d'emplois, surtout pour les jeunes. C'est l'absence d'opportunités de travail qui pousse les jeunes à prendre toutes sortes de risques et souvent à mettre leur vie en jeu. Deuxième aspect, c'est l'industrialisation durable, qui signifie une industrialisation qui tiennent compte des leçons du passé. Et pour cela, nous encourageons, nous donnons des conseils et nous soutenons et nous montrons au pays comment se lancer dans des industries vertes qui leur permettent à la fois de croître très rapidement, mais aussi de protéger l'environnement.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Le pape François est attendu ce dimanche à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Un des temps forts de sa visite sera sans doute sa rencontre avec la communauté musulmane à la mosquée centrale de Bangui. Une visite qui revêt une importance extraordinaire dans ce pays durement ébranlé par les affrontements entre les rebelles de la Séléka, à majorité musulmane, et les milices d'autodéfense anti-Balaka, composées essentiellement de chrétiens et d'animistes. Le Haut Commissariat pour les réfugiés exhorte d'ailleurs les belligérants à saisir l'occasion de la visite du pape pour relancer le processus de réconciliation nationale. Pour en savoir plus, Alpha Diallo s'est entretenu avec Dalia Alachi, porte-parole du HCR à Bangui.
Tout d'abord, en quoi la visite du pape François aiderait à apaiser la situation sécuritaire à Bangui?
Alors, il faut dire que cette visite est symbolique, mais aussi pourra apaiser les tensions intercommunautaires qu'on a vues encore plus fortes depuis les dernières violences en septembre et octobre. Le fait qu'il va pouvoir visiter les membres des deux communautés, le fait qu'il la ramène un message de paix, va pouvoir apaiser les cœurs, rapprocher sûrement les deux communautés autour d'un message de paix.
Comment vous décrirez l'ambiance à Bangui à quelques heures, à quelques jours de la visite?
Si on va prendre la situation depuis janvier 2015, on avait vu une amélioration de la situation sécuritaire. Mais depuis donc septembre, octobre, la capitale a vécu des moments très durs. On a eu des attaques armées sur plusieurs quartiers, des milliers de personnes qui ont dû être déplacées à nouveau, alors que avant cette violence, on voyait que les gens commençaient à rentrer chez eux, mais à cause des dernières violences, les gens ont été redéplacés à nouveau. On est aussi très préoccupés de la situation des minorités à risque qui se retrouvent dans des enclaves, qui ne peuvent pas sortir d'un périmètre très limité, qui n'ont pas accès aux services publics, qui ne peuvent pas aller à la banque, qui ne peuvent pas aller chercher des soins de santé. Ils nous disent, on peut même pas enterrer nos morts dignement. Donc ça, c'est une tension qui nous préoccupe parce que ça pourrait être une situation explosive dans le futur.
Quelles sont les dernières informations que vous avez au sujet du nombre de déplacés et du nombre de réfugiés en raison de la dernière éruption de violence?
Il y a eu une augmentation très importante dans le nombre de déplacés. On est passé en deux mois de 378 400 déplacés à presque 450 000 déplacés en novembre. Donc il y a eu une augmentation de 18%. On a aussi vu qu'il y a eu des personnes qui se sont enfuies à l'extérieur des frontières. Il y a eu des nouvelles arrivées en République démocratique du Congo. Donc tout cela, ce sont des signes très préoccupants, alors que il y avait eu des petites améliorations avant ces dernières violences.
Est-ce que vous avez, vous, humanitaire, des informations par rapport à ceux qui se sont réfugiés dans la brousse et comment vous faites pour leur venir en aide?
Les gens se cachent dans la brousse parce qu'ils ne savent pas où trouver un endroit où ils seraient en sécurité. Aujourd'hui, ce qui est à déplorer, c'est que même les sites des déplacés ont été attaqués. Même les humanitaires ont été des cibles des attaques. La situation est très préoccupante. En 2013 et en 2014, les humanitaires arrivaient à fournir une assistance aux personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, les humanitaires sont cibles. Tout cela, c'est des signaux préoccupants. Mais ceci dit, il y a quand même de l'espoir qui vient avec les prochaines élections qui auront lieu le 27 décembre prochain.
Quels sont les scénarios auxquels vous vous préparez? Est-ce que vous redoutez, en cas d'escalade ou bien en cas de contestation du scrutin, qu'il y ait de nouveaux mouvements de population et comment vous vous y préparez?
Tous les acteurs, que ce soit les acteurs humanitaires ou tout autre acteur, enfin, on est obligé de mettre un plan de contingence qui prend en compte tout type de scénario. Nous, on a l'espoir que ça va aboutir sur quelque chose de positif et que ça va tourner la page vers un chapitre qui va permettre au processus de réconciliation d'être durable et qui va ramener la paix en Centrafrique.
Au Sahel, près de 41 millions de jeunes âgés de moins de 25 ans sont exposés à la radicalisation ou contraints de quitter le pays en l'absence d'opportunités économiques. Une situation qui illustre l'ampleur des défis auxquels font face les pays de la sous-région qui doivent veiller au développement de leurs économies tout en faisant face à d'énormes défis sécuritaires. Pour Kouider Zerouk, porte-parole du Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, le partenariat entre les Nations Unies et le G5 pourrait les aider. On l'écoute au micro de Christina Silvero.
Les défis, c'est le choc climatique, c'est le chômage des jeunes, l'absence ou le manque de participation à la fois politique, économique et des catégories sociales très importantes comme les femmes et aussi les jeunes, la radicalisation, au terrorisme et puis un extrémisme violent. Évidemment, ce sont des défis qui posent problème que des connexions peuvent se faire entre des groupes à la fois terroristes, des groupes criminels liés au trafic de drogue notamment, au trafic transfrontalier et au crime organisé.
Alors justement, pour faire face à ces défis, l'ONU a formé un partenariat avec le G5 pour le Sahel. Quel est l'impact de ce partenariat?
Le G5 est une organisation régionale née de la volonté de ces cinq pays-là, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina, pour effectivement apporter une réponse régionale. Maintenant, en termes d'impact, à travers les agences des Nations Unies avec qui nous travaillons quotidiennement, on a pu travailler pour définir les priorités en termes de projets. Et ce travail de coordination a abouti à une élaboration très concrète de projets. On est arrivé au nombre d'une dizaine de projets qui ont été effectivement validés par les pays de la région et qui donc répondent à des besoins et à des attentes.
Qu'est-ce qui a changé depuis les 18 mois d'existence de ce partenariat?
Les pays du G5 ont pris conscience de l'importance de prendre à bras le corps non seulement la description des problèmes mais aussi des solutions. Donc ils se sont organisés de telle sorte que effectivement la mutualisation de leurs efforts puisse arriver à donner une réponse commune à des problèmes communs. Le groupe des G5 a aussi son programme d'investissement prioritaire dans lequel beaucoup de choses, si vous voulez, beaucoup d'objectifs, beaucoup de priorités sont aussi reflétées dans la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Donc il y a des analyses communes qui a permis que ce partenariat soit mis en œuvre relativement vite. Effectivement, ce partenariat a permis d'arriver à des sélections de projets.
Deux des pays du G5, notamment le Burkina Faso et le Mali, sont en crise. Est-ce que le fait qu'ils soient en crise impacte le partenariat?
Comme chaque organisation, il y a des pays qui ont des situations difficiles, mais à ma connaissance, ce sont effectivement des crises très importantes. Vous citiez le Mali, vous citiez le Burkina. Ce que j'ai pu constater, c'est effectivement cette détermination de ces pays-là à vouloir construire un avenir en meilleur dans une approche coordonnée est commune avec les pays voisins.
Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'envoyé spécial souhaite voir exactement ?
L'appel de l'envoyé spécial, c'est effectivement de mettre les moyens pour pouvoir trouver des réponses adéquates et rapides, mais il faudrait qu'il y ait aussi de l'aide, parce que la sécurité est importante, mais le développement et l'éducation le sont aussi.
Et c'est avec Quider Zero que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, un journal à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.